Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et j'accueille sur le plateau de Tech & Co Antoine Menin. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de Spotify France et Benelux. Spotify, on ne présente plus de 500 millions d'abonnés dans le monde. Une très belle boîte dont l'histoire est passionnante. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette série sur Netflix que vous avez sans doute dû voir, qui s'appelle The Playlist.
Absolument.
Qui est sortie l'année dernière et qui raconte l'histoire des fondateurs de Spotify. On remonte là à la fin des années 2000. Hein. Voilà, c'est passionnant. Je vous invite à regarder cette série parce que c'est une entreprise qui a une vraie histoire. Et c'est passionnant. Aujourd'hui, donc Spotify garde son leadership dans le monde du streaming musical malgré les mammouths derrière qui sont là, Apple Music, mais aussi Amazon et puis tous les autres. 500 millions d'abonnés, j'imagine que vous êtes ravis. Est-ce qu'on a le nombre d'abonnés en France de Spotify? Vous communiquez sur ces sujets?
Alors non, on est une société cotée, donc on communique uniquement sur nos chiffres mondiaux. Donc 500 millions d'utilisateurs, hein, je précise, parce qu'on a une partie gratuite et une partie payante.
Tout à fait.
500 millions d'utilisateurs dans le monde, 205 millions d'abonnés.
Payant, donc.
Payant, voilà. Abonnés payants. Oui, et Spotify continue à être largement leader du streaming audio dans le monde, devant les nombreux concurrents que vous avez cités.
Alors, le marché de la musique, du streaming, se porte plutôt pas trop mal. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, notamment avec un focus sur le marché français. C'est pas trop mal, mais pourrait mieux faire, finalement. Parce que, finalement, en France, on n'est pas les meilleurs en matière de streaming, finalement.
Ouais, on est un petit peu à la traîne en France sur l'adoption des nouveaux usages en général. Je crois qu'ici, dans Tech & Co, vous devez avoir eu ces discussions avec d'autres personnalités de la tech. Les Français mettent un petit peu plus de temps à adopter les nouveaux usages et pas seulement sur le streaming audio. Donc, on a ces petites années de retard par rapport à nos collègues. Voilà, moi, mes collègues en Scandinavie, en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis sont devant nous en termes de taux d'adoption.
Ouais.
Mais la France rattrape son retard. On voit que les chiffres qui ont été publiés par le SNEP auquel vous faisiez allusion tout à l'heure sont toujours en progression. Le marché du streaming en France progresse encore de 12% cette année. Et grâce à l'évolution du streaming et notamment de Spotify, bah le marché de la musique est en train de reconstituer son chiffre d'affaires de ces grandes années CD. Donc on est en train de revenir à un niveau de marché bien plus acceptable après les années de crise qu'on voit notamment dans la série à laquelle vous faisiez allusion.
Voilà, il faut savoir que les projections pour Spotify sont impressionnantes. Hein. La société vise désormais 1 milliard d'utilisateurs à l'horizon 2030. 1 milliard, c'est... Bon alors, 2030, c'est pas pour tout de suite. Hein. On ne sait pas trop de quoi demain sera fait, mais c'est quand même des chiffres impressionnants. On parlait tout à l'heure d'IA, Antoine Monin, avec ChatGPT, etc. Mais on se rend compte aussi que finalement, il y a énormément d'IA derrière toutes ces applications de streaming. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Apple Music et d'Amazon. J'ai pas cité Deezer. Honte à moi, parce qu'en plus, c'est un acteur français tout à fait respectable. Hein.
Bien sûr.
L'IA, elle est vraiment présente partout. Toutes les playlists que vous créez en temps réel, etc. pour les utilisateurs, c'est de l'IA, ça. Et depuis le début, non?
Alors, c'est des algorithmes. Et après, on va utiliser de l'intelligence artificielle pour nourrir nos algorithmes. Alors nous, c'est dans un secteur, j'ai envie de dire, qui est assez safe.
Oui.
C'est la musique, c'est le divertissement. En fait, on utilise.
Mais malgré tout, il faut bien viser pour que la playlist que vous allez m'envoyer, que je reçois de temps en temps, bah, corresponde à mes goûts et que je sois pas déçu.
Oui. Après, vous le savez, l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc., ils sont nourris par du savoir et ils sont nourris par des informations humaines. Donc nous, chez Spotify, je crois que ce qui fonctionne bien et ce qui est la clé de notre succès, c'est le mélange du savoir-faire humain, de la connaissance culturelle. Nous, on a des gens qui sont présents dans tous les marchés. On a plusieurs centaines d'éditeurs de musique, curateurs de musique, qui font ces playlists dont vous parlez. Parce qu'on a des playlists qui sont faites par des éditeurs humains. Et puis, on a des playlists qui sont faites par des algorithmes où on utilise l'intelligence artificielle.
Qui sont souvent les playlists personnalisées.
Voilà. Et les playlists personnalisées sont faites par les algorithmes, mais sont nourries aussi par le savoir et par, j'ai envie de dire, les informations que que nos éditeurs donnent aussi à la machine. Donc c'est vraiment cette collaboration entre l'homme et la machine qui fait qu'on arrive à un produit performant comme celui-là.
Je parlais de concurrence tout à l'heure, Antoine Monin. C'est vrai que donc il y a Apple, il y a Amazon, Deezer, etc. On va pas tous les citer, mais il y a aussi alors YouTube qui est là, qui est présent. Il y a TikTok qui aujourd'hui. Est-ce que vous considérez TikTok comme un concurrent de Spotify?
Ah, concurrent direct, non, parce que TikTok ne rémunère pas les ayants droit de la musique comme Spotify le fait. D'ailleurs, le SNEP l'a soulevé, hein, le syndicat national de l'édition phonographique, dans les chiffres qu'ils ont dévoilés hier. Il y a ce qu'on appelle un value gap, une différence de valeur générée. Donc, c'était déjà le cas avec YouTube, c'est aussi le cas avec TikTok. Donc, nous, Spotify...
En fait, ils sont rémunérés, mais différemment.
Ils sont rémunérés beaucoup moins. Quand on compare le temps passé sur ces plateformes versus ce que ça génère comme argent pour les ayants droit, c'est sans commune mesure avec ce que Spotify arrive à générer. Nous, on reverse 70% de nos revenus aux ayants droit de la musique. Et aujourd'hui, Spotify est le premier contributeur à l'industrie musicale en termes de revenus. Et c'est le cas maintenant aujourd'hui en France également. Donc, ce ne sont pas vraiment des concurrents directs. Ce sont, on va peut-être dire, des concurrents en termes de temps d'attention ou de divertissement, mais ce ne sont pas des concurrents directs, car nous reversons beaucoup plus d'argent aux ayants droit de la musique.
Est-ce qu'on ne serait pas aussi à un tournant, vous parlez de la rémunération des auteurs et des artistes, qui est un sujet capital, qui est souvent montré du doigt, en fait, hein, par les artistes eux-mêmes, qui disent que, bah voilà, c'est vrai que quand je m'appelle Rihanna, Justin Timberlake, ou je ne sais qui, ou David Guetta, évidemment, j'ai gagné beaucoup d'argent avec les plateformes de streaming, mais quand je suis un artiste, on va dire, moyennement connu, qui fait moins de stream, bah là, c'est pas avec ça que je vais pouvoir manger. Est-ce que on n'est pas à l'orée peut-être aussi d'une nouvelle réflexion, peut-être plus juste de la rémunération des artistes?
La question de la justesse de la rémunération des artistes, elle se pose depuis toujours. Alors avant, il y a 20 ans, 30 ans, à l'époque du CD, on était sur un marché fermé. Il y avait très peu d'élus qui étaient distribués et qui avaient la chance d'être découverts. Aujourd'hui, on est sur un marché qui s'est complètement ouvert. Donc, il y a beaucoup plus de prétendants. Le nombre d'élus reste finalement toujours inférieur au nombre de prétendants. On ne pourra pas faire en sorte que les millions d'artistes qui sont présents sur Spotify ou les autres plateformes gagnent bien leur vie.
Donc, il n'y a pas d'injustice pour vous ?
Aujourd'hui, ce qu'on est en train de montrer, on a un site qui s'appelle Loud and Clear, qui donne énormément de détails et d'informations sur comment on rémunère les artistes et ce qu'on arrive à rémunérer. On a versé plus de 40 milliards de dollars depuis notre création aux ayants droit de la musique. Aujourd'hui, sur Loud and Clear, vous pouvez aller voir le 50 millième artiste sur Spotify. C'est-à-dire là, pas Rihanna ou Justin Bieber. 50 millième artiste sur Spotify arrive à générer 50 000 dollars par an grâce au streaming. 50 000 dollars par an, ça commence à être quelque chose. Et ce ne sont que les revenus du streaming. Vous ajoutez à ça les revenus des concerts, des produits dérivés. Et d'ailleurs, dans les annonces qu'on a fait récemment, on est en train de développer des outils pour permettre aux artistes de vendre plus facilement des billets de concert et des produits dérivés. Donc, on commence à voir en fait que de plus en plus d'artistes gagnent de l'argent grâce au streaming et que le streaming leur permet aussi de générer plus de ventes de billets de concert et plus de ventes de produits dérivés. Donc, on est plutôt sur un cercle vertueux, avec un marché qui s'ouvre, toujours beaucoup de prétendants, peu d'élus, mais plus d'élus qu'à l'époque du CD. Donc, après, les discussions sur... Nous, notre mission, c'est de recréer un marché et de recréer de la valeur sur un marché qu'on avait complètement perdu il y a 20 ans. On est en train de réussir cette mission. Maintenant, après, on verse 70% de nos revenus à l'industrie musicale. On ne peut pas faire plus. Par contre, ces 70%, comment sont-ils reversés à l'intérieur de 70%? Nous, on ne pilote pas ça. C'est une question entre les labels, les éditeurs de musique, les artistes, les managers, etc. Qu'il y ait des discussions à l'intérieur de cette partie-là pour dire comment on refait la répartition, c'est une question légitime. Nous, notre mission, c'est de recréer de la valeur.
Antoine Monin, dernière question. Vous annoncez depuis pas mal de mois l'arrivée d'une offre, on va dire, haute fidélité qui existe chez vos concurrents, Deezer, Apple, Amazon. Elle n'arrive pas, cette offre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mettre autant de temps pour proposer du son haute résolution ou même Dolby, enfin voilà, cette mode du son 360?
C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi écouté ce que nous disaient les créateurs et ce que nous disent nos utilisateurs. C'est une des fonctionnalités qui est intéressante, mais dans ce qu'on a annoncé récemment à l'occasion de StreamOn, on a vu qu'il y avait aussi beaucoup d'autres fonctionnalités qui étaient demandées par les créateurs. Et donc, on a proposé une interface aujourd'hui, avec cette nouvelle interface qu'on va développer, plus interactive, avec plus de facilité pour être découvert, en fait.
Plus de vidéos aussi.
Plus de vidéos, un accès plus rapide au contenu, la découvrabilité. En fait, on met l'accent sur la découvrabilité pour permettre à plus d'artistes d'être découverts et avoir des contenus plus interactifs. Pour les podcasts également, avec des podcasts vidéo, avec des playlists, avec des aperçus vidéo. Donc, c'est plutôt ça que nous demandent les créateurs, les artistes et les podcasteurs et les utilisateurs. Hi-Fi, ça viendra, bien sûr. C'est aussi quelque chose qui nous est demandé. Mais toutes les innovations qu'on voulait mettre à disposition, on a répondu aussi aux attentes des créateurs.
Il y a un problème de coût aussi, peut-être. Cette offre Hi-Fi sera peut-être plus chère et c'est peut-être pas le bon moment de dégainer une offre un peu
premium. Il y a une question de coût parce que ce sont des fichiers qui sont plus lourds. Il y a une question d'impact écologique, comme on en parlait ensemble. Donc, on mesure tout ça. Et aujourd'hui, avec StreamOn, c'est plutôt la découvrabilité, l'interactivité et le dynamisme de l'interface qu'on a voulu prioriser.
Mais pas de date sur l'arrivée de cette offre Hi-Fi. Ça sera pas en 2023.
Je peux pas vous dire pour l'instant. On a annoncé beaucoup de nouvelles fonctionnalités qu'on va dérouler dans l'année, donc pour l'instant c'est ça la priorité.
Merci beaucoup Antoine Monin d'être passé par le plateau de Tech & Co.
Merci à vous.
Directeur général de Spotify France et Benelux.